Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message: marquer mon temps.
Texte tout simple que vous connaissez bien, on pourrait presque le citer de mémoire. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, le verset 34. Alors, Matthieu, chapitre 6, verset 34, et ce sont les paroles mêmes de Jésus. Il nous place devant une grande vérité nécessaire à réentendre, à comprendre et à vivre. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors nous avons quelque chose de particulier. D'abord, il y a l'inquiétude. Et puis il y a dans ce texte quelque chose qui nous frappe. Il est question du lendemain, demain. Et il est parlé des jours, du jour, chaque jour. C'est l'histoire du temps. Vous savez que nous sommes des êtres finis, nous avons un commencement et une fin. Hein? La naissance et puis lorsque nous disparaissons. Ça, c'est bien cadré. Alors c'est vrai que le Dieu qui nous parle ainsi, lui, c'est le Dieu de l'infini. Il est hors du temps et il nous parle du temps, il nous parle de notre temps de vie. Alors pourquoi ne pas s'inquiéter? Pourquoi donc s'inquiéter? Parce qu'on va avoir la réponse dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3 et au verset 1er. Et vous allez voir que ce que Dieu nous dit, c'est quand même très sage et propre à véritablement garder nos cœurs hors du souci de l'inquiétude et tout simplement de lui faire confiance. Alors, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prend soin de lui-même et à chaque jour suffit sa peine. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Alors on l'a dit tout à l'heure, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Voilà, le début et la fin. Et entre-temps, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Ça, c'est l'histoire des jardiniers. Il plante et ensuite il déplante, c'est normal. Alors après, ça devient un petit peu plus pathétique. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Voilà. Alors, vous savez que vous avez du temps. Enfin, j'espère que vous avez du temps cet après-midi. Peut-être que vos prochaines obligations sont demain matin à 8h pour retrouver au travail. Donc, on a tout notre temps. Hein? On a le temps que l'on se donne. On a le temps que l'on choisit. On a le temps que l'on veut. Et on vit dans un monde qui est complètement fou avec le temps. Ouais. On va peut-être réinventer un nouvel espace-temps, parce qu'on s'aperçoit que les gens sont complètement comprimés, ils sont malades, on dirait même qu'ils sont fous. C'est vrai, on est cloisonné dans des obligations, dans des contraintes, dans des astreintes, et on ne sait plus comment faire. Ouais. Il y a une révolte à la SNCF, c'est que les trains n'arrivent plus. Alors moi je ne prends pas le train parce que je n'en ai pas besoin, mais les gens se révoltent, ils ne veulent plus présenter leurs billets parce que tous les trains arrivent en retard. Avec tout ce que cela entraîne, parce qu'ils arrivent en retard au travail, et puis ils ne peuvent pas faire le travail, le patron n'est pas content, et puis ensuite il faut qu'ils rattrapent, mais quand le temps qu'ils rattrapent, le train est déjà parti dans l'autre sens. Alors c'est vraiment un monde difficile, hein. Et on va de plus en plus vite, alors vous comprenez que tout cela, ça se rétrécit, hein. On devrait, puisqu'on va plus vite, on devrait avoir plus de temps. Et plus on va vite, moins on a de temps. C'est quand même une drôle de situation, hein. Et pourtant, la Bible affirme qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a une tribu qui s'appelle Éphraïm, dans le livre des Chroniques, où il nous est dit qu'ils avaient l'intelligence pour discerner le temps. Ouais, c'est beau, hein, moi je dis que c'est formidable. Et aujourd'hui, on n'est plus à l'heure de Dieu. Parce que s'il est dit cela de cette tribu d'Éphraïm, c'est que c'était des gens qui avaient quand même une notion spirituelle des choses. Et je crois que quand on est dans cette conception, dans cette pensée de Dieu, dans cette réflexion de Dieu, on s'aperçoit que, eh ben, on ne s'inquiète pas du lendemain. On ne s'inquiète pas de l'heure qui va venir. On se dit qu'il y a un temps pour toute chose. Et que si je veux aujourd'hui ceci, eh bien demain ça sera autrement. Et puis, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont malades à cause du temps, hein. Ça a un nom tout cela. Et on s'aperçoit que il y a une surcompression, hein. Et on voit que les gens sont détraqués parce que bon, alors on vit nous au bord de la mer, dans une petite ville, c'est tranquille, c'est bien, on est au rythme des marées, presque. Mais il y a quand même un petit peu de stress, hein. Mais quand vous vivez dans les grandes métropoles, dans les mégapoles, hein, de notre monde, il paraît que c'est autre chose, hein. Hein, ça vous arrive certainement d'aller à Paris. Bah, c'est incroyable, ils sont tous à la course, hein. Voyez, ils s'engouffrent là dans le métro. Ils sortent et ils en arrivent à avoir ce slogan « métro, boulot, dodo ». C'est tout ce qu'ils font, hein. Voilà, ils n'ont pas autre chose, hein. Alors, ce n'est pas la vie, il me semble, hein. La vie, c'est autre chose parce que Dieu l'a fait avec des temps de travail et puis des temps de repos. Il l'a fait avec il y a des choses qu'il faut finalement vivre parce qu'il faut les faire. Et puis, il y a des temps où, quelque part, eh bien, il avait donné, d'ailleurs, me semble-t-il, le Seigneur, si je me souviens bien, eh bien, ce que l'on appelle des temps de repos du sabbat. Et c'était chaque semaine, ensuite c'était tous les 7 ans, et puis tous les 49 ans. Voilà, vous vous décomptez, hein, c'est bien, hein. Et il paraît que tout cela, eh bien, tout le monde se reposait, tout le monde retrouvait son souffle. Alors, le temps, c'est quelque chose de difficile parce qu'on est souvent plus subissant qu'agissant. Parce que c'est comme ça, hein, c'est pas par rapport seulement à nous. Hein, si on avait le choix, on pourrait dire, ben écoute, on pourrait dire à notre patron, ben écoutez, moi je viendrai quand j'aurai un peu de temps. Alors vous allez voir qu'il va vous répondre, vous serez payé quand j'aurai le temps. Ça c'est toujours la même chose, on est contraint, il n'y a rien à faire. Hein. C'est ça justement le monde, hein. Il est comme ça et puis tout est chronométré. Quand vous devez aller d'un endroit à un autre, vous avez votre train, vous avez votre avion et puis attention, hein, si vous ratez, c'est fini, hein, c'est terminé. Si les trains sont en retard, vous avez de la chance. Mais autrement, ce n'est pas toujours comme ça non plus. Alors, un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Et je pense que nous avons besoin de réfléchir à ce que nous dit Jésus, parce qu'il nous parle de l'inquiétude. Et l'inquiétude, c'est quelque chose qui tue, hein. C'est pas dynamisant, c'est pas vivifiant, c'est pas enthousiasmant, l'inquiétude. Parce que les gens qui sont dans l'inquiétude permanente, qui sont toujours à regarder leur montre, ben, il semblerait qu'on a ceci, on a un autre rendez-vous, et puis il faut passer à cela, etc. Et je crois qu'à partir de cela, eh bien, nous passons certainement à côté de grandes occasions. Nous, pour nous qui sommes chrétiens, eh bien, nous avons cette discipline de donner eh bien, là, un temps à chaque chose. C'est important. En tous les cas, la priorité, c'est quand même, hein, sans négliger le reste, eh bien, de nous retrouver devant Dieu, soit comme nous le faisons aujourd'hui, ou soit à travers des moments d'édification, dans lisant la Bible, ou des temps de prière, etc. Ça, c'est, quand on a pris l'habitude, c'est quelque chose qui est indispensable. Ce n'est pas de dire, eh bien, Seigneur, ça brûle, il y a le feu à la maison, alors je t'appelle. Alors que peut-être on l'a oublié depuis des temps, je ne sais plus combien de jours. Mais non, mais il y a cette habitude, et vous savez, ça régularise la vie, hein. Et je crois qu'on est quand même plus heureux que de faire tout en force, tout en précipitation, avec le risque que quand on fait les choses en précipitation, on va certainement oublier quelque chose au passage. Hein. Oublier des choses. Donc, vivre son temps, nous dit la Bible. Ouais. Vivre son temps, vivre notre temps, en quelque sorte. parce que nous sommes là dans cette société, il y a peut-être des gens qui vivaient autrement, quand la civilisation était au pas du cheval. Vous savez ce que ça veut dire ? Ouais. Si nos ancêtres revenaient, voyez la vitesse de nos voitures, des trains, et encore c'est limité sur les routes, hein. Mais les trains, les avions et ceci et cela, moi j'ai l'impression qu'ils tomberaient, ils repartiraient de l'autre côté, hein. Oui, parce que c'est un monde. Et puis alors aujourd'hui, la Terre, c'est un village. Hein, vous avez en 24 heures, vous êtes complètement aux antipodes. Hein. Oui, il faut à peu près 24 heures. Alors on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde-là ? Donc on vit. On vit en son temps avec notre société. Mais est-ce qu'on a besoin de vivre comme on nous l'impose ? Hein, il y a des gens qui sont sages, des gens qui sont intelligents et qui ont compris peut-être en s'inspirant de la Bible, et même en dehors de la Bible, hein, je veux bien croire, qu'ils se sont dit, bien voilà, nous n'allons pas nous laisser gérer, ou nous n'allons pas nous laisser voler notre vie par le temps qui nous échappe et qui nous est imposé. Qui nous est imposé à un rythme infernal, on pourrait dire endiablé, c'est souvent les mots des journalistes quand ils parlent finalement de ce monde de vitesse. Donc vivre son temps, vivre en son temps, c'est notre société d'aujourd'hui. Comment peut-on faire ? Et puis il y a naturellement, là où nous sommes très interpellés, c'est vivre le temps de Dieu. Vous savez, celui qui est notre créateur, qui a tout fait, hein, il a fait notre vie, mais il a fait le temps, il a fait l'espace. Il a fait les limites de notre existence. Vous savez comment il se présente ? Vous savez comment il s'appelle ? Je suis celui qui suis. Voilà. Lui, il est dans le temps et il est éternel. Alors, il peut mesurer les choses parce qu'il est hors de ce contexte dans lequel nous sommes restreints, dans lequel nous sommes contraints. Et néanmoins, quand il s'adresse aux hommes, et je pense en particulier là où il a fait cette première déclaration, c'est à Moïse. Oui, Moïse était un temps un homme pressé. Pressé de tout, hein, quand il était prince d'Égypte. Et puis après, Dieu lui a dit, écoute, tu vas venir te reposer, je t'offre 40 ans de vacances. C'est là où il lui a parlé et qu'il lui a dit, je suis celui qui suis, pour qu'il se calme un peu. Et après, il a repris une œuvre considérable qui ne lui laissait plus de temps, Moïse, quand il a pris en charge le peuple d'Israël. Et ça a été véritablement une charge, on pourrait dire, écrasante. Mais il a fallu qu'il apprenne tout cela. Il a d'abord fallu qu'il apprenne à se calmer, puisque dans sa précipitation et dans son agitation, il a quand même tué un homme. Et c'est peut-être le risque. Hein. C'est peut-être le risque de cette folie. Et les gens qui se tuent sur la route, c'est souvent une histoire de vitesse. On veut gagner du temps et puis finalement, eh bien, on ne gagne rien du tout puisque on reste sur le bas-côté et puis c'est fini pour nous. Hein. Donc ça, c'est déjà une première chose. Je pense à Moïse parce que pendant 40 ans, il a pu méditer ensuite dans le désert. Et le meilleur moyen pour faire l'apprentissage d'être le chef du peuple d'Israël, ça a été de garder des brebis, donc de devenir un berger. Et le berger, me semble-t-il, qu'il a son temps, non ? Il paraît qu'ils ont beaucoup de travail. Hein. C'est un travail de surveillance, c'est un travail de vigilance. C'est un travail où il faut avoir à la fois l'œil, les oreilles, et puis les pieds pour courir. Hein. Et il a appris tout cela. Alors, il a entendu Dieu lui dire, « Eh bien, je suis celui qui suis. » Et je pense que vivre son temps, vivre en notre temps, mais vivre le temps de Dieu, c'est important. Ouais, c'est très, très important. Alors, on a quelques réflexions que j'aimerais partager avec vous autour de toutes ces questions que nous avons dans ce livre de l'Ecclésiaste. Il y a deux mots, deux verbes qui reviennent dans notre temps, c'est gagner son temps et perdre son temps. Ouais. On entend les gens qui nous disent « moi, je gagne du temps ». Alors, ils se précipitent encore plus vite. Voilà. Et peut-être qu'en fin de compte, en voulant gagner du temps, ils s'aperçoivent que ils l'ont perdu. Parce que ça dépend après quoi on court. Et ça nous ramène justement entre deux grandes valeurs que Jésus nous enseigne dans l'Évangile, c'est l'essentiel et le secondaire. Après quoi courons-nous ? Qu'est-ce qui nous motive dans notre vie ? Parce qu'il y a beaucoup de gens, des millions et des millions de gens qui disent « mais moi c'est important » alors que ce n'est que secondaire. Et il y a des gens qui disent « mais ça, ça n'a pas d'importance » alors que c'est l'essentiel. Jésus nous le dit sous une autre forme. Il nous dit cette parole « que servirait-il à un homme de gagner le monde entier ? De gagner je ne sais combien de temps pour essayer d'avoir le monde entier dans sa main ou dans ses mains s'il perdait son âme ?» Alors là, vous allez me dire « est-ce que c'est essentiel ou est-ce que c'est secondaire ?» Et il y a beaucoup d'histoires comme ça, où nous voyons que des hommes, même parfois des hommes de Dieu, ont perdu leur temps. Et quand ils se sont aperçus du bilan, quand ils ont fait le bilan, ils se sont dit, mais je suis passé à côté. Il y a un cas tout à fait patent, c'est que les Israélites ont crié pendant des siècles et des siècles, enfin ce n'étaient pas les mêmes, hein, parce que, mais ils ont crié après des siècles en disant, Dieu, Dieu d'Israël ou Dieu, libère-nous du joug des Égyptiens, libère-nous de la servitude. Alors ils ont pleuré, ils ont crié, ils se sont lamentés, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire en tous les cas pour secouer ce joug. Et puis quand Dieu leur a dit maintenant ça y est, c'est le moment de partir, il a fallu les pousser. Et quand il s'est agi 2 ans après, seulement 2 ans après avoir fait un petit apprentissage de la foi dans le désert, quand Dieu leur a dit voilà, vous êtes à la frontière, je vous ai suscité, eh bien là, des espions pour finalement vous faire rentrer, les espions reviennent. Il y en a 10 qui sont négatifs, il y en a 2 qui sont positifs, et ils diront tout simplement, mais attention, c'est bien, c'est formidable, mais c'est un pays dangereux. Et là, ils avaient tellement pleuré pour rentrer dans le pays du Canaan où coule le lait et le miel, quand Dieu leur a dit, maintenant vous pouvez y aller, je suis avec vous, et puis vous savez ce qu'il y a de l'autre côté. Ils se sont dit, non, on ne veut pas y aller. Et vous savez qu'en voulant gagner du temps, ils ont perdu. Hein. Et à 2 ans de pérégrination dans le désert, Dieu leur en a rajouté 38, ce qui faisait même 40. Voilà. Hein. Ça, ce sont des exemples que nous avons dans la Bible. Pressés, mais au moment d'y aller, ils ne veulent plus. Alors, ils restent sur place à tourner en rond. Perdre son temps, gagner son temps. Mais qu'est-ce qu'on appelle gagner son temps, finalement? Puisque, de toute façon, tout est bien réglé à 24 heures par jour. Et dans une heure, il y a 60 minutes. En une minute, il y a 60 secondes. Vous gagnez quoi? On ne gagne rien. Et souvent, le temps qu'on gagne, on le perd, d'une autre manière. Alors, c'est cela hein, le grand problème. L'essentiel et le secondaire. Ouais. C'est la question. Il y a des gens qui sont toujours à courir après le temps. Comme si il était devant eux, vous savez. Hein, c'est des expressions que l'on a. Hein. Et courir après le temps nous rapporte finalement eh bien, là, l'effet de sociologie dans notre monde moderne. C'est que les gens sont de plus en plus stressés. Voilà. Il y a de... comme Jésus nous dit, mais le tracas, l'inquiétude et le stress, c'est terrible. Hein. Les gens sont malheureux hein, parce qu'ils sont, au taquet, comme on dit, hein, ils sont au chronomètre et ça les rend profondément malades. Et c'est comme s'il y avait comme une boulimie, vous savez, comme si on devait en faire de plus en plus avec tout ce qu'il peut y avoir de conséquences dans l'état physique. Hein. Ne parlons pas de l'état psychologique parce que les gens... arrive à saturation à un moment donné, et puis quant à ce qui peut rester de spirituel, il ne reste pas grand-chose. Hein. Voilà. Et ça, c'est... on court après quelque chose. Il y a des gens qui diront, on court après l'argent, ou ils courent après l'argent, ils courent pour rattraper le temps, et puis, mais le temps perdu, il est perdu, il n'y a rien à faire. Hein. Par contre, il y a des choses que nous allons dire qui peuvent être d'une grande importance pour, non pas changer les choses à l'extérieur de nous-mêmes, mais nous changer, nous. Et là, ça change tout. Et c'est bien le message de l'Évangile. Jésus n'est pas venu changer le monde en soi, parce que s'il était venu changer le monde en soi pour les Juifs, il aurait mis les Romains dehors, il aurait mis, eh bien là, certainement quelques pendules à l'heure, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il est venu dire tout simplement que le grand bouleversement, la grande révolution humaine, elle commence par l'intérieur, le cœur de l'homme, l'état d'esprit, la mentalité des gens. Et ça change tout, hein. C'est comme ça que le monde reprend un rythme normal. C'est comme cela qu'une vie d'homme, qui est une vie parfois, eh bien, qui s'en va de droite, qui va à volo de droite et de gauche, redevient une vie régulière, une vie normale, dans le temps de Dieu. Et vous savez que, avec la grâce que Dieu nous donne, il y a bien des hommes qui sont devenus chrétiens, qui ne seraient plus là aujourd'hui parce que Dieu leur a prolongé leur jour, parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait à l'intérieur d'eux-mêmes. Peut-être que certains d'entre nous, on ne serait pas là, on serait mort, hein. Oui, on serait mort. On aurait abrégé notre temps, parce que notre folie, parce que finalement les choses secondaires prenaient le pas sur l'essentiel et complètement partis dans nos délires, eh bien nous ne serions plus là. Mais Dieu a arrêté le fonctionnement, cette frénésie et cette folie qui nous emportait vers la mort et nous amenait à réfléchir qu'il y avait des choses qui étaient certainement beaucoup plus importantes. Donc la boulimie de faire des choses. Vous savez... dans cet espace, il y a à peu près 100 mètres carrés, un volume, on ne pourra pas finalement mettre plus que ce que cela contient. Et quelquefois, dans la vie d'un être, il se charge de toutes les manières en me disant, eh bien, ça va rentrer quand même. Eh bien, au bout d'un certain temps, ça ne rentre plus. Et quand on est chargé, quand on est accablé, quand on n'en peut plus découragé, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? On est quasiment mort. C'est pour cela que Jésus l'a dit à un moment donné, mais vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du temps de repos. Ça paraît peut-être quelquefois assez étonnant, mais vous savez que Jésus, dans une circonstance particulière, alors que les disciples étaient super agités parce qu'il les avait envoyés en mission 70, ensemble, tous ensemble. Et il leur avait dit, vous guérissez les malades, vous ressuscitez les morts, vous faites ceci, vous faites cela, en mon nom, pas de problème. Et ils sont partis, et quand ils sont revenus, ils étaient tellement excités et aussi fatigués, Jésus leur a dit, calmez-vous, venez prendre un peu de repos, parce qu'il nous est même dit dans le texte de Marc, qu'il n'a même pas le temps de manger. Alors attention à nous. Dans le monde trépidant, faisons attention à notre hygiène de vie aussi, je le dis au passage, faisons attention, parce qu'on a vu trop souvent des gens où il nous faut intervenir un petit peu en SAMU, parce que les gens disent « mais j'en fais trop » et ils ne savent plus s'arrêter. Vous savez, quand on est parti dans l'enchaînement, on ne sait plus s'arrêter à ce moment-là. Ouais. C'est des questions d'intelligence et de réflexion que Dieu nous donne à travers toute sa parole. Donc la boulimie, on en parle beaucoup. La boulimie, c'est manger, 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 grossir. Et je crois que dans l'affaire des hommes, dans l'histoire des hommes, quelquefois, il y a de la boulimie. Boulimie d'une manière ou d'une autre. Et les gens sont malheureux, ils ne peuvent plus vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça, ce n'est pas possible. Il y a aussi une autre notion dont la Bible nous parle, c'est savoir vivre au rythme du temps. Ouais. Il y a des gens qui sont complètement décalés, à moins qu'il y ait des obligations professionnelles, ce sont des choses autre chose, mais qui dorment le jour et qui vivent la nuit. Bon. Vous allez me dire, ça c'est encore une forme d'hygiène. Alors on trouvera toujours naturellement de bonnes raisons de faire l'inverse, mais à un moment donné, il faut le payer, la facture, quoi qu'il en soit, parce qu'on ne peut pas vivre comme cela en décalage. Et dans bien des domaines, toute la vie est aussi dans la même trajectoire. Il y a des rythmes dans la vie, il y a toutes sortes de choses. Il y a une chose que j'ai toujours été admiratif, c'est dans la personne de Jésus. Il ne se laissait pas bousculer. Même au milieu de ses ennemis qui, quelquefois, voulaient se saisir de lui ou le précipiter, comme à Nazareth, des pentes escarpées de leur montagne, on voit Jésus passer au milieu d'eux, et il passe apparemment tranquillement. Oui, Jésus, je crois que, savait nous donner l'exemple d'une vie qui était au rythme, dans la normalité, selon la pensée de Dieu. Il ne courait pas de droite et de gauche. Écoutez, s'il y en a un qui pourrait nous donner une leçon, c'est bien lui. Jésus aurait pu nous dire, eh bien, je travaille pour sauver le monde. Travaillez donc pour sauver le monde. Le monde entier se perd. Mais même avec la meilleure volonté que nous pouvons avoir au fond de nous-mêmes, même avec les dons et les capacités, mes amis, on ne sauvera pas le monde. On ne pourra pas sauver le monde. Parce que ce n'est pas possible. Et Jésus a fait les choses dans le rythme qui lui était. Il est dit... Pendant qu'il fait jour, il faut que je travaille. Voilà. Mais Jésus n'a pas été plus vite, comme on dit, que la musique. Et ça, c'est une leçon pour nous. Si le maître nous a donné cet exemple, nous-mêmes, eh bien, c'est la même chose. Faisons ce que nous devons faire. Soyons à la bonne place, au bon endroit. Disons ce qu'il convient de dire, mais n'essayons pas de faire ce que Dieu ne nous demande pas. Avec peut-être cet arrière-plan de culpabilité en disant « je n'en fais pas assez, je n'en fais pas assez, je n'en fais pas assez ». Écoutez, il y a un temps pour tout. Mais il y a un temps pour tout, ça nous est dit et ça nous est rappelé. Le rythme de notre temps, de son temps. Et puis, si nous redécouvrions les valeurs ou la valeur du temps, ça nous ramène un petit peu à ce que nous disions tout à l'heure, l'essentiel et le secondaire, mais la valeur du temps. La valeur du temps, c'est faire le choix de se construire et ne pas se détruire. Ouais. Il y a des choses qui sont complètement et totalement négatives et délétères, et il y en a des choses qui, quelquefois, sont tout à fait anodines et ne semblent pas extraordinaires, mais qui nous construisent, qui nous forment. Je pense au principe que l'Évangile nous laisse, qui commence toujours par quelque chose de petit et qui finit grandiose. Jésus nous laisse cet exemple du grain de sénevé qui met en terre, Le laboureur le dépose, il l'abandonne, il le perd en terre. Et puis finalement, eh bien, avec les jours qui vont passer, avec les saisons, le climat, etc., ça va devenir une petite plantule. Et puis ensuite, ça semble insignifiant. Et ensuite, ça va devenir un petit arbuste. Et ensuite, un arbre, à tel point que Jésus nous dira, mais cette petite plante, cette petite graine à l'origine est devenue un arbre gigantesque, tutélaire, jusqu'à accueillir les oiseaux du ciel. Eh bien, c'est ça aussi. C'est ça, c'est qu'on ne peut pas aller plus vite que le temps. Et souvent, le principe même de l'évangile, c'est ça commence tout petit pour devenir immensément grand et qui un jour, je peux le dire et nous le croyons, remplira tout l'univers. Le principe de l'évangile, le principe du royaume de Dieu, eh bien, remplira l'univers entier. Et c'est parti de rien du tout. Alors, c'est ça justement, la valeur du temps. Et trop souvent, nous sommes encore emprunts, nous-mêmes, nous les chrétiens, en disant, et nous sommes au rythme de ce que nous voyons autour de nous. Il faut des bilans, il faut de faire des analyses de ceci, etc., de voir la rentabilité, la productivité, il faut que tout soit à flux tendu. Vous savez ce que je veux dire, hein, c'est comme ça en entreprise. Hein. Pas de réserve, mais toujours à flux tendu. Et puis après, on se débrouille s'il y a des manques. C'est pas comme ça. Hein. Le Seigneur nous construit, il nous édifie, il nous fortifie, et il veut que nous devenions eh bien, solides, et que nous puissions vivre et assumer notre existence normalement, la valeur du temps. Oui. Vous savez, si vous voulez grandir et si nous voulons grandir, prenons le temps de nous mettre dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'endroit pour. Il n'y a pas une forme particulière. Il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait inventer, un secret qui nous ferait avancer un peu plus vite et tout ça. Non, c'est le fait même de nous tenir devant Dieu et de prendre auprès de lui ce qui nous est nécessaire pour grandir. Vous savez, il y a une femme qui avait pris son temps alors qu'elle avait beaucoup de travail. On entendait derrière son dos des casseroles qui remuaient dans la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Marie! Vous connaissez Marie de l'Évangile? Oh là là, il y avait un tintamarre derrière, on en serait cru un orchestre. Et elle était simplement, calmement, aux pieds de Jésus, et elle buvait ses paroles. À un moment donné, il y a sa sœur qui s'appelle Marc. Elle arrive précipitamment dans l'espace où se trouvait Jésus, et elle interpelle Jésus, les mains sur les hanches, en disant, mais est-ce que ça te fait rien que je suis tout seul à travailler? Ah, Marthe, Marthe, lui dit Jésus, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Quoi? Peu de choses? Je te fais la cuisine. Ben, vous retrouverez ça dans l'évangile. Mais c'est pour montrer que quelque part, eh bien, Jésus donnera raison à Marie. Eh oui, elle a pris la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Mesdames, calmez-vous. Si le repas est à midi 5 au lieu de midi, à midi, c'est pas grave. Mais c'est vrai, et on se laisse tellement emporter par toutes sortes de choses. Vous savez, il y a une chose que nous apprenons quand on vieillissons, quand on prend un peu d'âge, quand on est à la retraite, et c'est encore mieux, c'est qu'on se laisse plus bousculer et plus pousser. Ah oui, parce que, bon, c'est bien, hein, mais quelquefois on sert les intérêts des autres parce qu'ils veulent toujours que ça aille plus vite. Mais à un moment donné, on se dit stop, hein, ça va. Hein. Tu veux passer devant, tu passes devant, moi, ça n'a pas d'importance. Vous savez que les gens se chamaillent sur la route comme ça pour être les premiers, hein? Et ça arrive quelquefois jusqu'à des insultes, ça arrive quelquefois qu'il y en a qui perdent la vie. Hein. C'est terrible. Je vous confie un secret, mais vous ne le direz pas. C'est une attitude de code de la route que j'ai. Quand quelqu'un me klaxonne, je prends mon temps. Il ne peut pas passer par-dessus, par-dessous, il fait ce qu'il veut. Mais en tous les cas, non, parce que j'estime que quand même, bon, quand on voit ces gens qui conduisent n'importe comment, ah non, 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 quand, non moi c'est personnellement, excusez-moi, hein, je vous livre un grand secret de ma vie, mais toujours est-il que, non, bouscule pas. Et dans l'œuvre de Dieu, c'est pareil. Il y a des choses qui brûlent, hein, quelquefois, qui sont sur le feu. Je me dis, non, il faut réfléchir avant. Parce qu'on ne doit pas être bousculé par la pression des autres. Non, ils ont peut-être leur raison, ça c'est sûr, à moins que quelqu'un est en danger, on bouge là à ce moment-là. Mais souvent, c'est des choses tellement... Quelquefois, on a vu des gens qui nous ont doublés, ils faisaient les fous, ils prenaient des risques inouïs pour les rattraper au feu suivant. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est qu'une histoire pareille, hein? Alors vous regardez celui qui est arrivé, coucou, voilà. Hein? Il n'est pas content, hein, parce que je peux vous dire que... voilà. Redécouvrir la valeur du temps. Et il y a une chose que quelquefois qui pourrit notre vie, qui pourrit notre temps, ce sont les mauvaises habitudes. Ouais. On en parle. Je suis en train de faire une explication en diagonale de toute l'histoire de l'évangile et tout ça, parce que je pourrais prendre d'autres textes et tout ça, mais c'est ce que j'ai voulu faire ressortir parce que ce sont des faits de l'homme, ce sont des faits de la vie des hommes. Oui, les mauvaises habitudes qui viennent grignoter. Vous savez, comme Jésus le dit, ah, la semence, elle pousse, mais elle a poussé, vous savez, dans quel terrain ? Avec les ronces et les épines. Et à un moment donné, ben, elle va s'étouffer. Et il y a bien des choses qui tuent notre vie, qui tuent notre temps, parce qu'il y a des ronces et des épines. Et on ne les avait pas vues. Parce que, quand même, si vous êtes un tant soit peu jardinier, vous avez des bonnes graines et des mauvaises graines. Je peux vous dire qu'il y a une course à ce moment-là qui va se passer. Hein. Et ça sera la mauvaise qui poussera plus vite que la bonne. Et dans la vie, c'est la même chose. Maîtriser son temps. Voilà. Et ça, c'est une force que Dieu va nous donner. Si véritablement nous voulons observer ces principes, il y a un texte dans l'Évangile aussi qui nous dit que celui qui agit avec précipitation, vous allez m'aider là pour la suite, hein, n'arrive qu'à la disette. Voilà, ne parvient qu'à la disette. C'est pour cela que de temps en temps, eh bien, nous avons besoin de réfléchir. Au jour du bonheur, nous dit le livre de Job, je crois, peu importe, la Bible. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour des temps de difficulté, de la détresse, réfléchis. Et quand on va trop vite, on n'a pas le temps de réfléchir. Il y a un personnage haut en couleur dans notre Bible, il s'appelle Pierre, qui est devenu l'apôtre du même nom. Et lui, on le voit dans l'Évangile, il ne réfléchit qu'après avoir agi. Et ça va lui fermer des portes. Hein. Et il faut dire que notre Pierre, il a ramassé des bosses. Hein. Ah oui, il en a pris des murs, hein, et des portes qui étaient fermées. Hein. Mais bon, Dieu lui a fait grâce parce que ça peut être notre tempérament. Mais même si c'est notre tempérament, Dieu va nous transformer, nous changer. De l'intérieur, pour que finalement, eh bien, les choses rentrent dans et aillent dans le bon sens. Et puis je termine par une dernière chose, puisqu'on sait qu'il y a un temps pour tout. Naître, mourir, pour faire ceci, pour faire cela, etc. Ça implique la vie, dans tous ses aspects, la vie des hommes. Et pourquoi pas s'offrir du bon temps ? Vous allez me dire, mais est-ce qu'on a le droit de s'offrir du bon temps ? C'est pas ce que vous en pensez ? Hein ? Eh oui, parce que Dieu est bon. Notre Dieu, il est bon. Et quand il a donné le souffle à sa création, à cette humanité, il a voulu que l'homme aussi ait du temps, du bon temps. Si vous regardez tous les textes qui nous rapportent ou qui nous ramènent à ce que Dieu a préparé pour l'épanouissement de l'homme, pour qu'il s'égaie, pour qu'il se réjouisse, pour qu'il puisse véritablement eh bien, recevoir la bénédiction et ensuite, non seulement le partager avec les autres, parce que c'est un enrichissement, et de pouvoir eh bien, sans oublier de dire, eh bien, merci Seigneur, Dieu a donné à profusion. Et aujourd'hui encore, notre Dieu, il n'est pas mort. Il n'a pas oublié sa création. Et il nous a donné de rentrer dans des principes bons, justes, équitables, des principes de vérité, des principes de bonté, des principes de bénédiction. Il l'a dit, il le fait. Il l'a fait pour nous. Ouais. Dieu veut que nous puissions eh bien, prendre le temps de se faire du bien. Dans un monde où les gens prennent du temps à se faire du mal. Croyez pas ? À se faire du mal. Quelle invention, hein, de penser que l'on peut faire du mal à quelqu'un. Que l'on peut faire du mal à toutes sortes d'autres gens. Ouais, faire du bien, c'est le contraire de l'ego. C'est ne pas penser à soi, c'est penser aux autres. Et pour bien faire le bien, pour faire le juste bien de Dieu, parce qu'il y a le bien de l'homme et il y a le bien de Dieu, mais faire le juste bien, eh bien ça demande que nous prenions du temps pour lui dire, mais Seigneur, tu vois, je suis là devant toi, qu'est-ce que je peux faire en bien ? C'est quand même absurde de dire, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire de mal ? Là, on n'a pas le même Dieu à ce moment-là, hein. Parce qu'il y en a un qui va vous répondre. Hein. parce qu'il est spécialiste pour vous donner des idées pour faire le mal. Alors, je crois que dans tout cela, eh bien, Dieu nous donne véritablement eh bien, cette notion de pouvoir nous approcher avec lui, de lui demander qu'est-ce que je peux faire du bien. Et puis peut-être vous allez faire du bien aux autres, hein, comme le bon samaritain, hein, c'est vrai. Mais est-ce que nous ne pourrions pas nous faire du bien aussi à nous-mêmes? Vous êtes venu cet après-midi, vous faites du mal ou vous faites du bien en attendant ce message? Vous n'osez pas me répondre, hein. Arrête Alain, ça me fait du mal. Ah, bah, vous souriez, alors à ce moment-là, moi, ça me réjouit. Je recommencerai, si vous voulez, si vous m'en donnez le temps. Mais toujours est-il que, pourquoi pas se faire du bien? Je veux faire du bien à mes frères et mes sœurs, je veux faire du bien à mon épouse, je veux faire du bien à mon mari, à mes enfants. Ça, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Mais quelquefois, à soi, on a quelquefois une conception, on veut bien penser au Seigneur, on veut bien penser aux autres, on veut bien penser peut-être à nos frères et sœurs, mais pour nous, il y a comme une réticence. Mais écoutez, il faut vivre la bénédiction que Dieu nous a donnée. Alors, on ne va pas tomber dans moi, moi, moi et moi, mais quelquefois, c'est bien de pouvoir se faire du bien. Oui, faire du bien dans la présence de Dieu. Se faire du bien peut-être à travers ce que Dieu nous a donné, de pouvoir nous détendre. Il nous en a donné les capacités. Eh oui. On a vu parfois des gens qui se disent, mais moi, je ne m'autorise pas, je ne me permets pas. Pour moi, c'est quelque chose d'inconcevable de devoir m'arrêter. Et voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande, puisqu'il avait dit à ses disciples qui avaient travaillé pendant je ne sais pas combien de temps à faire des miracles et toutes sortes de choses, qui avaient couru la campagne pendant des jours et qui étaient revenus, c'est vrai, avec du succès, parce que le succès, quelquefois, ça vous donne encore. Mais Jésus leur a dit, mais venez à l'écart et reposez-vous un peu. Et parfois, nous avons besoin de nous reposer. Alors moi, je veux vous dire quelque chose, prenez des vacances. Enfin, revenez quand même, parce qu'autrement, je vais être tout seul. Mais toujours est-il que c'est vrai. Et de pouvoir casser le rythme de la vie, on est dans un monde qui est quand même endiablé, hein. Et de pouvoir dire, eh bien voilà, je m'octroie un petit temps, et dans ce temps, ben, je vais faire ce que le Seigneur me donnera de faire, c'est pas de faire de mal, c'est pas un plaisir égoïste, mais c'est de pouvoir eh bien, nous reposer, respirer, souffler un peu, et de choisir le meilleur, hein, de choisir le meilleur. Je termine avec deux textes tout simples, ils sont beaux, à mon sens. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est dans une des églises, il est dit ceci, où Dieu dit, je lui ai donné du temps. Bon, il y a tout un contexte derrière, je ne l'explique pas, mais Dieu dira à une église, je lui ai donné du temps. Et c'est formidable que Dieu nous ait donné du temps. Il nous a donné le temps de notre vie, le temps d'aujourd'hui, cette heure que nous partageons, la méditation de la parole, c'est Dieu qui me l'a donné. Et quand je suis conscient que le temps que Dieu me donne, c'est un trésor, alors à ce moment-là, je peux lui dire tout simplement, mais merci Seigneur. Il n'y a peut-être rien de particulier dans ma vie à cette heure, il n'y a peut-être rien de particulier dans ce jour, mais parce qu'il m'a donné le temps de le vivre. C'est une grâce de vivre, trouvez pas ? C'est une grâce de vivre, merci Seigneur. Et on l'apprécie de plus en plus, là comme je le disais, plus on vieillit et plus on regarde en arrière notre passé, tout ce qui a été notre existence, on se dit, mais merci Seigneur. Et moi je bénis le Seigneur pour mes frères qui sont arrivés à un grand âge, qui ne seraient peut-être plus là s'ils n'avaient pas eu la grâce de Dieu et le renouvellement de ce souffle de vie, et de pouvoir dire, eh bien voilà, Seigneur, voilà, c'est ce que tu m'as donné. Vous savez, Moïse a écrit un psaume, c'est le 90, c'est le seul psaume de Moïse dans tout le livre des psaumes. Et il dira cette prière, ô Seigneur, aide-moi, remplis mon cœur de ta sagesse et aide-moi à bien compter mes jours. C'est beau, hein ? C'est beau, à bien compter mes jours. Alors on le met en parallèle quand nous entendons Jésus nous dire, mais ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas du lendemain, chaque jour suffit sa peine. Pourquoi nous inquiéter ? Alors, tout le monde dit oui, puis j'espère que quand vous partirez, oh, j'ai ce problème. Allez, on finit. Qui peut me dire, sans ouvrir sa Bible, ah, c'est une devinette, attention, hein. Qui peut me dire le verset Ésaïe, chapitre 30, verset 15? Il n'y a pas beaucoup de versets dans la Bible, vous ne savez pas quand même. Bon. Alors, je voulais que je vous aide. Allez, on y va. Parce que ça a un rapport naturellement avec ce que nous avons dit cet après-midi. Qu'a ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Dites-moi la suite maintenant. Ça vous renseigne pas beaucoup. Hein. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Eh bien, écoutez, que le Seigneur bénisse ce temps, qu'il nous bénisse dans notre temps, qu'il nous bénisse dans le temps qui lui appartient et dont nous bénéficions, et que Dieu nous donne sa grâce, parce que c'est quand même vraiment dans le calme et la confiance. C'est lui qui tient tout, c'est lui qui maîtrise tout. Alors on va lui demander qu'il bénisse notre temps et qu'il nous donne de pouvoir le goûter, le savourer pour le glorifier. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ton infinie bonté. Oui, Seigneur, les uns et les autres, nous sommes tous dans le temps. Nous ne sommes pas hors du temps. Tu nous as donné un temps à vivre, un temps de vie, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, parce qu'un jour, dans ce temps qui est peut-être dans notre passé maintenant, eh bien, il y avait un temps, Seigneur, où nous avons entendu ton appel, ta voix, et nous y avons répondu. Merci, Seigneur, parce que c'est encore toi qui es venu nous aider. Et tous les jours de notre vie, chaque matin qui se fait, eh bien, nous pouvons considérer, Seigneur, que le temps d'hier est passé, mais c'est le temps d'aujourd'hui qui nous est donné, le temps, l'heure que nous vivons. Alors merci, Seigneur, pour la vie. Merci pour le temps de vie. Merci pour les temps de vie. Merci, Seigneur, pour les temps heureux. Merci où nous avons également été malheureux. Et si nous te disons merci, même pour ces moments difficiles, c'est que nous avons vu que tu as pris le temps de venir jusqu'à nous dans nos pleurs et dans nos larmes. Tu as pris le temps, Seigneur, de nous réconforter. Tu as pris le temps, lorsque nous avons perdu quelque chose, de nous consoler. Il y avait toujours le temps de Dieu. Et nous t'en bénissons, Seigneur, pour ta bonté, ta grâce. Et puis, il y a au fond de l'âme de chacun d'entre nous, au plus profond de notre être, eh bien, il y a, Seigneur, cette espérance que nous passerons du temps à l'éternité. Et nous te remercions et nous te bénissons. Bénis, mes amis, accorde-leur ta grâce. Et nous nous réjouissons en toi pour le temps précieux, pour le temps qui a sa valeur. Et nous voulons, Seigneur, tout simplement te demander, comme Moïse, oui, Seigneur, remplis mon cœur de sagesse et apprends-moi à bien compter mes jours. Merci, Seigneur. Amen. Amen.